Fantasy Moneyball, une présentation de la Fit Foodie. La Fit Foodie, une entreprise d'ici qui fait des collations santé à haute teneur en protéines, mais qui goûte vraiment le dessert. Tout est sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné et chaque ingrédient est choisi soigneusement pour offrir la satiété et combler tous vos cravings. Vous commandez en ligne et vous récupérez ça facilement dans leur point de dépôt qui se situe à Trois-Rivières, Québec, Lévis et Drummondville. Bref, si vous aimez bien manger sans sacrifier le goût, allez voir leur vaste gamme de produits au lafitfoodie.com. Fantasy Moneyball, saison 1, épisode 10. Jean-François Hervé, comme toujours, en compagnie de Jean-Philippe Marcoux. Comment ça va, mon JP?
Ça va top shape, toi?
Ça va très, très, très bien. Bel épisode aujourd'hui, JP. Un épisode où on se transforme un peu en grand-père, en mentor. L'épisode qu'on appelle un peu un épisode de conseils. Essentiellement, on a 9 conseils pour vous pour la saison 2025.
J'avais tellement hâte de faire cet épisode-là. Ça fait je ne sais pas combien de temps que ça rumine dans nos têtes de parler de ça. Fait qu'enfin, tous nos bons conseils et toutes les erreurs qu'on a faites dans les dernières années qu'on souhaite corriger vont être parlées aujourd'hui.
Voilà. Puis on sait que parmi nos auditeurs, il y a beaucoup de gars et de filles qui sont très, très expérimentés. On le voit par la qualité des questions qu'on reçoit. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de pouleurs qui sont peut-être à leur deuxième, troisième saison de fantasy. Puis des fois, ben, on apprend à la dure en fantasy. Hein? Faire un pic de cul, pardonnez-moi l'expression, mais faire un pic de cul dans les 2-3 premières rondes qui tue le reste de l'année, qui scrape un peu ta saison, entre guillemets, ça fait mal, c'est pas facile. Tu peux le ruminer longtemps, ce mauvais choix-là ou cette mauvaise décision-là. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu pour vous aider à prévenir ces erreurs-là et à vous aider à peut-être mieux manager, à mieux gérer votre équipe tout au long de la saison. Avant de se lancer, on a une nouvelle qui est sorti, là, ça fait quelques jours de cela. Semble-t-il, puis peut-être qu'au moment où vous écoutez cet épisode-là, on a plus de détails. Mais au moment où on enregistre, on apprend que la NFL considère une suspension d'au moins 6 matchs pour le receveur des Chiefs de Kansas City, Rashee Rice.
C'est énorme, énorme. 6 matchs et plus, c'est pas loin de la moitié de la saison fantasy régulière. Donc, ça fait peur.
Oui, je suis bien d'accord. Donc, sur ces notes très réjouissantes pour Rashee Rice et les fans des Chiefs, on se lance avec nos 9 conseils pour la saison 2025. Avant de se lancer officiellement, un petit rappel. Vous savez peut-être déjà, si vous n'êtes pas au courant, Fantasy Moneyball a maintenant son Patreon. On a eu énormément de demandes de ce côté-là. Beaucoup, beaucoup de gens intéressés à voir les rankings de GP, à recevoir des conseils durant la saison, à voir les meilleurs, les waivers, par exemple, des conseils pour les échanges, pour même des fois comment faire votre alignement en vue de la semaine à venir. Bref, on va vous revenir. J'utilisais dans un épisode l'image de « on bâtit l'avion en plein vol ». Ben, c'est un peu ça qu'on est en train de faire avec notre Patreon. Pour l'instant, vous pouvez vous abonner. Il y a 50 places réservées aux Early Birds à seulement 4,50 par mois. Sinon, ben, une fois que les 50 places vont être comblées, on a le même forfait qui est à, je crois, qui revient à 7 $ ou 7,50 ou 6,50, pardon, 6,50 par mois. Donc, vraiment, vraiment pas très cher si vous comparez le prix moyen là, des autres experts qui vendent leur draft kit et ces choses-là. Ça vaut vraiment la peine. Puis vous n'avez pas idée à quel point que votre soutien est important puis que ça nous motive à aller encore plus loin. Et ben, évidemment, on va toujours se souvenir des gars qui nous ont soutenus en premier, des gens qui se sont abonnés à nos services en premier. Bref, fait que très, très excité tout ça. Puis, ben, félicitations d'ailleurs aux gagnants de notre concours de la semaine dernière. Il y a 3 heureux élus qui ont gagné un abonnement gratuit pour la saison à venir. Donc, pour plus de détails, allez visiter notre site Instagram ou encore rendez-vous sur www.patreon.com/fantasymoneyball. Donc, JP, on se lance avec nos 9 conseils. Et le premier conseil, numéro 1, le fameux facteur chance dont tu voulais jaser, JP.
Ouais, puis...
Gros cheval de bataille, ça, pour JP. Il n'y a pas grand-chose qui le fait plus sciller des oreilles que d'entendre des DG se plaindre qu'ils n'ont pas de chance, ils sont pas chanceux, patati, patata.
Je suis pas chanceux, j'ai drafté McCaffrey, c'est blessé semaine 1, ça marche pas.
Blablabla. Ça m'est déjà arrivé, je tiens à mentionner, ouais.
Écoute, je pense que c'est notre première discussion de fantasy football ever ensemble en privé. C'était là-dessus. On parlait de nos autres ligues. Tu me disais que tu n'avais pas été chanceux. Puis là, sûrement que j'ai les yeux qui ont viré quand j'ai entendu ça. Pourquoi je voulais qu'on parle de ça? Écoute, le fantasy, là, c'est pas une science infuse. On s'entend qu'on gage sur les performances sportives de façon fantaisique. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais d'un sport réel, c'est comme, il n'y a rien de concret là-dedans, mais comme pas du tout. Puis au niveau des blessures, au niveau des surprises négatives ou positives, oui, il y a un certain facteur chance. Donc, ça veut dire qu'on... C'est quoi la chance? C'est ce qu'on ne contrôle pas. Fait qu'est-ce que le fait de gagner ou pas une ligue, c'est 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80% de la chance? Je vous laisse débattre de ça à la maison. Moi, j'ai l'impression que c'est plus petit qu'on pense. Peut-être plus de l'ordre de 20 à 30%, surtout rendu en série. T'sais, rendu en série, c'est un match que tu joues en demi-finale, c'est un match seulement que tu joues aussi en finale. Fait que tout peut arriver au travers d'un match, mais pour moi, de faire ou pas les séries, la chance est là, mais pas tant que ça. Puis pourquoi je voulais qu'on parle de ça, c'est le meilleur exemple pour moi de gestion de la chance. T'sais, Christian McCaffrey l'an passé, et tout comme cette année, on a des doutes sur sa santé. L'an passé, on avait vraiment des doutes qui partaient l'année. Mais la personne qui a drafté McCaffrey puis qu'au final, il ne commence pas l'année, est-ce que c'est par malchance ou c'est par mauvaise planification? Est-ce que cette personne-là, de ne pas avoir drafté Jordan Mason dans son club comme backup
c'est
pour
ça,
se backer, est-ce que c'est de la chance de ne pas l'avoir drafté ou c'est juste de la mauvaise planification? Après ça, cette même personne-là qui a McCaffrey, qui ne joue pas, il y a un partner dans sa ligue qui a Jordan Mason. Est-ce que c'est de la chance qui a fait en sorte qu'il ne voulait pas payer le prix pour aller le chercher? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que tu peux te plaindre toute la saison que tu n'as pas eu ton premier pick finalement, ou tu peux agir. Puis après ça, oui, demain matin, Jamar Chase se blesse. Il n'y a pas un backup wide qui va prendre son rôle. Pas du tout. Puis bonne chance d'essayer de trader pour T. Higgins dans ce cas-là. Par contre, tu as une blessure, tu sais qu'il est out pour l'année. Comment tu peux t'ajuster? L'année n'est pas terminée. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça. C'est contrôle ta destinée au lieu de te laisser vaguer puis de faire aucune action puis dire que tu as tombé une année terrible parce que tu n'as pas été chanceux. Après ça, oui, il y a toujours une année par-ci par-là qu'il y a un gars dans nos ligues là, qui a vraiment toutes les pires blessures de l'histoire de l'humanité. OK, c'est bon. Scrape ton année puis passe à la prochaine. Mais outre qu'un gars aux 2-3 ans dans notre ligue de 12, on peut toujours s'ajuster.
Oui. Puis tu vois, tu fais bien faire cette nuance-là, JP, parce que j'ai en tête une saison qui m'est arrivée. Je pense mes trois premiers picks, mes trois choix de mes trois premières rondes se sont blessés dans un intervalle de 2 semaines. Puis on parle pas de petites blessures. Là. 3 gars out for the year. D'autres joueurs qui performent pas, etc., etc. Quand ça peut t'arriver d'être vraiment quasiment touché par la foudre, puis là, ça va toujours être difficile. Tu perds tes trois choix de tes trois premières rondes, des gars qui avaient des bons débuts de saison, qui allaient être des bons contributeurs, ce sera pas facile de s'en remettre. Mais les waivers sont là pour une raison. C'est juste que je pense c'est pas tous les DG qui sont prêts à s'investir au même niveau. Partir avec autant de blessures, ça implique qu'il va falloir que tu sois très attentif dans tes waivers. Ça implique qu'il va falloir que tu passes quand même pas mal de temps à discuter d'échanges avec d'autres DG. Je pense que l'ampleur de la tâche, des fois, va amener certains DG à s'effondrer face à autant de malchance, mettons.
Tu as raison, JF, mais justement, ça va être un très beau tremplin pour le conseil numéro 2, mais c'est pas vrai que ça se passe au draft du fantasy. C'est juste vrai. La base. De
un mauvais draft, je pense, peut te coûter. En fait, moi, je dirais, une saison ne se gagne pas au draft. Non. Tu peux peut-être se perdre au draft si tu fais juste pic de cul après pic de cul. Ça va être difficile de t'en remettre. Mais c'est vraiment, la saison se gagne avec ton management au courant de l'année. C'est important de faire un bon draft et d'aller te chercher une certaine profondeur, mais c'est pas là que la ligue se gagne. Vraiment pas, je suis
absolument
d'accord. Bon, justement, le conseil numéro 2, waivers, 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 on pourrait continuer de le dire 45 fois. L'importance des waivers, ce sera jamais, on n'insistera jamais assez là-dessus.
Je te dirais, là, entre un bon draft et un draft exceptionnel, mais pas de bons waivers. J'aimerais mieux, moi, un draft correct et d'être excessivement bon et actif dans les waivers. C'est là que ça se passe. Les benches sont tellement petits. Il y a tellement de mouvements de personnel, tellement de comités de running back maintenant que tu ne peux pas avoir des Tank Bigsby sur tous les clubs partants au début de l'année. Tu ne peux pas avoir des Jordan Mason justement sur tous les clubs partants en début d'année. Les benches sont trop petits. Fait que d'être à l'affût de ce qui se passe, puis aussi de... C'est pour ça qu'on est là aussi, là, mais d'indiquer c'est qui a du talent comme backup ou qui finalement est rendu le lead back à tel ou tel endroit. C'est un Karen Williams de ce monde qui fait gagner ta ligue. ça a beaucoup plus de pouvoir. Puis ça t'a rien coûté en capital de draft, juste des waivers. Beaucoup plus de pouvoir que qui t'a drafté en septième ronde. T'aurais dû prendre lui à place de lui, tu comprends? Fait que je sais pas comment plus le dire, mais que c'est là que ça se passe. C'est là que je trouve que tu gagnes ta ligue. Si tu dis qu'on peut pas gagner sa ligue au draft, en waivers, tu peux absolument.
100%. Puis il y a des DG qui sont moins fans des trades. Moi, j'ai vu des DG faire à peu près aucun trade, mais manager leurs waivers comme des experts, comme des chefs, aller chercher 2-3 perles rares, puis gagner des ligues. Là. Fait que...
Puis, quand on parle de waivers, là, quelque chose qui a été mentionné dans quelques podcasts que je vais mettre une emphase là-dessus parce que c'est terriblement intelligent. Chaque dollar dépensé dans les FAB money, là, ça, je vais te laisser... Pardon, c'est quoi les FAB?
Oui, FAB, c'est une abréviation pour Free Agent Auction Bidding. Essentiellement, c'est une vente aux enchères. Tu sais, une vente aux enchères qui est secrète. On ne le voit pas, qu'est-ce que les autres mettent. Puis, ben, par exemple, l'année de Pukonakwa, après sa grosse première semaine 1, tout le monde pouvait miser sur lui. Tu as un budget de 200$. Il y en a qui ont mis peut-être 10, il y en a qui ont mis 20. Celui qui va avoir Pukonakwa dans son équipe à la fin de la journée, c'est celui qui va avoir mis le plus d'argent, par exemple 60$ dans l'exemple.
Tu as un montant pour l'année, puis tu dépenses comme tu
à
veux.
À ta guise, tu peux le dépenser en une semaine, comme tu peux
versus
en garder jusqu'à la fin.
L'ancien système archaïque qui est priorité au pire club, là, que je vous conseille de changer vers le FAB si vous pouvez. Mais tout ça pour dire que chaque dollar dépensé en début d'année vaut beaucoup plus que dollars dépensés plus loin. Puis là, quelqu'un va dire, ah, mais là, 10$ dépensé semaine 2 ou 10$ dépensé semaine 13, c'est la même affaire. Ben non. Ben non, parce que le gars, premièrement, les grosses surprises arrivent en début d'année.
Voilà.
Karen Williams.
Sauf de très rares exceptions, les gros pick-up des waivers, c'est dans les 2-3 premières
semaines. Karen Williams et Pukonakwa,
semaine 1.
Dans les dernières années, c'est les meilleurs exemples. C'est drôle parce qu'ils jouent avec le même club, les deux. Mais ces gars-là, tu payes pour et tu les as pour toute l'année. Mm-hmm. C'est pas, ils arrivent la semaine 13 et ils donnent 2-3 semaines. Fait que c'est le temps de dépenser puis c'est le temps de surpayer. Puis là, quand j'ai surpayé, je me souviens plus du nom du gars c'est dans notre ligue, mais c'est pas de mettre 100% de ses FAB sur Isaiah Likely après la semaine 1. C'est pas ça qu'on parle. Mais déjà là, c'est plus logique de faire ce gamble-là avec 100% de ses waivers semaine 1 que de garrocher un tas d'argent en fin d'année pour aucune raison sur quelqu'un qui va avoir peu d'impact dans ton club et surtout pour très peu de temps.
Ouais.
Fait que, tu sais, la gestion des waivers, ça semble être juste « Ah, ben mets un montant sur un gars parce qu'il faudrait le ramasser lui. » Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de stratégie qu'on pense. Et en saison, là, notre podcast va servir à ça, littéralement.
Il n'y a jamais personne qui a gagné une ligue de fantasy parce qu'ils ont été cheap avec leur argent de FAB. Là. Jamais, c'est... un très, très bon point, JP. Troisième conseil, faire fi des fausses tendances dans le monde du fantasy football.
Bon. Là, Jeff, je ne veux pas bâcher sur personne. Je vais mentionner... Oh,
mais...
Ouais, non, ouais. Je suis bon là-dedans. Mais non. Mais je vais mentionner aucun podcast. Puis moi, j'aime qu'il y ait mille et un podcasts de fantasy football, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, en turc. Je m'en fous de la langue. Tant mieux. J'aime que ça l'explose comme marché, c'est magnifique. Vous voyez à quel point qu'on triple là-dessus. Mais parfois, je ne suis pas un grand mathématicien. C'est sûr, je travaille avec les maths depuis toujours avec le football et avec la bourse. Mais souvent, on voit des faussetés au niveau des tendances. Fait qu'on veut voir quelque chose au travers des chiffres qui est absolument faux et qui va nous emmener sur une fausse piste. Puis, Une des meilleures affaires que j'ai entendues, je m'en souviens comme c'était hier, j'étais dans ma voiture, j'écoutais un podcast XYZ en anglais. J'ai fait faire un accident parce que j'entendais parler de les receveurs de passes à leur deuxième année à 70% battent leur ADP. Là, je suis comme OK, là, je pensais, je suis comme bon, ça veut dire que si je repêche, de l'an passé, Marvin Harrison Jr., et son ADP, c'est 17 cette année. Il y a 70% de chance de le battre. OK, oui, regarde. Et Christy, ça fait du sens. Là, je pense à d'autres tweets, puis d'autres tweets, puis d'autres tweets. Là, mettons, on en a parlé dans l'épisode dernier. Xavier Leggett, il est 69e wide receiver en ce moment. S'il bat son 69e, fait que mettons qu'il finit 62e. Ah, mais il rentre dans le 70%. Hey, nice, OK, c'est vrai, c'est une bonne stat. C'est Christy, là, tu regardes tous les wides de toutes les dernières années, mais... Dans cette statistique-là, sur, mettons, 100 receveurs de passes depuis 10 ans qui ont battu leur ADP à leur deuxième année, combien que ça l'a rapporté quelque chose? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que voilà. Tu en as peut-être 10 qui ont été non draftés, qui ont battu leur ADP à la Xavier Leggett, pour 2-3 qui ont busté, qui étaient dans les premières rondes, comme Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, Brian Thomas. Fait que ça, c'est une tendance qui existe. Fait que ça va de soi. Il y a des fortes chances que leur deuxième année soit meilleure et qu'ils soient un petit peu sous-estimés comme sophomore, fait comme deuxième année après leur année recrue. Mais quel poids statistique que tu vas donner à genre des tonnes de wide receivers que tu n'aurais juste jamais drafté? Voilà. Anyway.
Puis, la question qui m'intéresse le plus, moi, c'est en moyenne, ils battent leur ADP par combien de rangs? Si c'est par 5 rangs, on s'en... C'est moi, mais on s'en contrefou.
Mais ce n'est pas dit.
T'sais, c'est ça. Alors que si... Bah, si Xavier Leggett bat son ADP par 45 rangs cette année, écoute, waouh, c'est incroyable, c'est exceptionnel.
Puis c'est pour ça que
c'est ça.
C'est pour ça que certains pensaient au départ que notre podcast, on allait être dans l'analyse technique terrible au niveau mathématique, fait que dans les analytics, comme ça se pouvait pas, puis que Hockey GP allait parler de A-Dot non-stop à chaque épisode, puis si ça. Non, parce que. Mettons le A-Dot, qu'on revient là-dessus, c'est le Average Depth of Target. Mais si Xavier Leggett, son A-Dot est supérieur cette année à l'an passé, ça veut dire que son rôle est différent. Pourquoi que son rôle est différent? Est-ce que Tetoria McMillan finalement est blessé? Est-ce que tu as telle affaire? Tetoria McMillan rate 2-3 semaines d'affilée. Les targets de Leggett sont plus loin que d'habitude. Ça va-tu être ça pour l'année? Non. T'sais, dans le sens, c'est le football qui va expliquer les statistiques et non l'inverse. Fait que souvent, dans les statistiques pures, on voit des fausses tendances. Après ça, on en voit des vrais. Derrick Henry, on en a déjà parlé. Chaque game joué, chaque victoire est beaucoup plus payante au niveau fantasy pour lui. C'est pratiquement le double de ses points. Ouais. Fait que c'est une vraie tendance, on sait. Puis, c'est pas juste 2-3 matchs en carrière. On parle de la carrière au complet, c'est le double de points. Mais après ça, il y a mille une affaire, des fausses tendances, au même principe. Là, je rentre vraiment dans du personnel, JF, c'était pas planifié, mais... Vous savez, peut-être, mais j'ai gagé sur le sport puis pas juste le football. Okay? Fait que j'ai gagé beaucoup, beaucoup sur le baseball. Et à un moment donné, dans mon salon, je pensais à une théorie. C'est comme je voyais tellement de séries au baseball de 3 matchs. Fait que la plupart des games, c'est 3. Fait que les Red Sox vont jouer 3 games au Yankee Stadium. Puis après ça, ils vont aller jouer 3 games à LA, ainsi de suite. C'est comme la plupart du temps, quand une équipe perd les 2 premiers matchs, on dirait qu'ils gagnent souvent le 3e. Là, je regarde les statistiques-là. Je regarde 10 ans de MLB statistiques. J'ai passé littéralement des jours là-dessus. Là, je suis comme, my God, 2024, 2023, je dis n'importe quoi, mais à 60% du temps, l'équipe qui a perdu va gagner le match. Avec une cote de temps, ça veut dire que si j'avais gagé 100$ par match, je ne sais pas, j'aurais fait 10 000, on va dire, au travers de l'année. Je suis comme, oh my God, j'ai trouvé quelque chose, c'est débile mental. Là, je retourne en 2022, 21, 20, 19, 17, 18. Finalement, tout s'annule. Ça fait que c'est une fausse statistique qui est juste biaisée, puis tu vois des fausses tendances que tu peux pas dire si ça va être de même pour toujours.
Ouais.
Ça, moi, j'appelle ça, c'est l'analogie de la roulette au casino. Tu sais, c'est pas parce que tu tombes 10 fois sur le rouge d'affilée que tu es dû d'avoir noir ou que tu es sur une tendance que ça va être que du rouge.
Ça me fait penser à quoi, JP? Ça me fait penser à certains gars qui parlaient quand c'était le temps de faire des picks, par exemple, dans des parlays, des affaires comme ça, ils vont dire tel club, ils sont invaincus cette année contre le spread de telle affaire. Puis c'est OK, mais oui, mais ça, l'équipe, elle ne sait pas qu'elle joue contre. Veut absolument rien dire. En tout cas, il y en a beaucoup des affaires comme ça qu'on pourrait parler longtemps. Là.
Merci beaucoup. Merci. Puis tu sais, récemment, j'écoutais un très bon podcast américain qui parlait des League Winners. Fait que là, ça disait que. C'est niaiseux, en gros, de repêcher un QB ou un tight end en début de draft parce que les league winners, wide receiver puis running back sont là. Mais d'un autre côté, mettons que tu draftes Kittle en 4e ronde puis donne ce qu'on pense qu'il va donner ou ce qu'il a donné l'an passé même, ben c'est un league winner aussi. Fait que tu sais, oui, statistiquement, les running back et wide league winners sortent là, mais ça n'empêche pas un QB ou un tight end de l'aide. Tu comprends? Fait que des fois, il y a du poids statistique qui est mis à des endroits un petit peu de façon exagérée. Donc, de là, de faire attention. Puis même là, quand vous nous écoutez, si je parle de quelque chose, mais il faut prendre ça avec un grain de sel, aller vérifier si vous voulez après ça pour confirmer la chose, mais c'est qu'une information qu'on vous donne. Fait que si je parle de telle tendance ou tel joueur, excellent, mais aller plus profondément que juste prendre une statistique. Mais on va essayer d'y aller plus complexe que juste donner une stats.
Voilà. Beau rant, JP, j'adore. au quatrième rang de tes conseils, mettez les sentiments de côté et analysez de façon pragmatique. Peut-être une petite mise en contexte là-dessus, JP. Je vais parler du endowment effect, c'est-à-dire l'effet de dotation en français. Rapidement, là, il y a eu un... Ça part ça, de l'expérience de la tasse à café, The Coffee Mug Experiment, qui a été réalisé au début des années 90 par un groupe de chercheurs aux États-Unis. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, les chercheurs, c'est qu'ils donnaient aux participants une tasse à café gratuitement. Ils donnent une tasse à café, pas besoin de payer. Puis l'autre groupe, ils splitent le groupe en deux. Il y a un groupe qui se fait donner une tasse à café, l'autre groupe ne s'en fait pas donner. Ils demandent ensuite à ceux qui ont reçu une tasse à café, ce serait quoi le prix minimum que vous seriez prêt à vendre cette tasse à café qu'on vient de vous donner gratuitement? Et de l'autre côté, ils demandent au groupe, combien vous seriez prêt à payer pour la tasse à café qu'on ne vous a pas donnée, qu'on a donnée gratuitement de l'autre côté? C'est vraiment, vraiment super intéressant. Les résultats, en moyenne, ceux qui avaient reçu une tasse à café voulaient en moyenne vendre leur tasse à café 7$. Ceux qui n'avaient pas reçu de tasse à café voulaient en moyenne payer 3$. Essentiellement, là, ce que ça démontre, cette recherche-là, l'effet ici qu'on voit, l'endowment effect, l'effet de dotation, c'est quand on se fait donner quelque chose, même si qu'on l'achète, qu'on se le fasse donner, quand cette chose-là nous appartient, instantanément, on lui donne plus de valeur qu'elle n'en a réellement. Tout simplement, on devient attaché à cette chose-là, puis à cette valeur-là sentimentale, impondérable, fait en sorte qu'on ne voudra pas la vendre pour moins que X prix. Puis ben, de l'autre côté, quand tu ne l'as pas, tu n'as pas cet attachement-là émotionnel et donc tu ne seras pas prêt à donner autant que ce que la personne voudrait recevoir. Bref, très, très beau parallèle avec la façon que certains DG gèrent leur club fantasy, je pense, JP.
C'est débile mental, puis je trouve qu'on aurait pu parler pendant 2 heures de pourquoi que c'est difficile de trader en fantasy puis que le monde surévalue leurs joueurs, mais rien aurait pu aussi bien résumer ça que cette expérience-là. C'est fou. C'est fou raide. Là, ça l'explique bien des choses pour bien des gars en ce moment. Fait que c'est pour ça que c'est tough à trader. C'est pour ça que, après ça, moi, ça me fait tellement rire. T'es rendu à la semaine 4 en fantasy. Tu veux trader pour Malik Nabers, qui déçoit vraiment. Là, tu parles au DG. « Ah, oh, mais je peux pas l'échanger. C'est mon choix de première ronde. » Ouais, mais il performe pas bien. Ouais, mais tu sais, c'est mon choix de première ronde. Toi, t'as Marvin Harrison Jr., qui est le wide receiver numéro 1 au total. Ah, oh, mais je voudrais au moins lui. Et c'est ton choix de troisième ronde. Ouais, mais... On s'en fout des choix. C'est voilà. Comme les valeurs sont, excuse-moi, mais on les fout dans les vidanges.
Dès que le draft est fini, exactement. On s'en sac de ce que tu as repêché ton gars.
De là, on le mentionne tout le temps, on est vraiment fatiguant avec ça. En tout cas, moi, je me trouve fatiguant, mais les sentiments, là, gardez-les pour votre blonde, votre chum, votre chien. Là, puis draftez et gérez votre club de façon pragmatique. Pragmatique, c'est comme sans sentiments, puis c'est l'accumulation de points qui fait en sorte qu'on gagne des matchs. Mm-hmm. C'est tout si simple que ça, that's it. Tu sais, il y a aucun. Tu l'as déjà mentionné, mais les joueurs ne savent pas qu'on les start. Il y a
c'est
rien
plate,
de personnel.
C'est plate, j'aimerais ça, mais.
Ils ne savent pas qu'on les trade, ils ne savent pas qu'on les wave et ainsi de suite. Fait que...
Je suis le premier à me donner du crédit quand un de mes joueurs performe bien en disant aux autres DG que ah, tu sais, c'est... je sais comment l'utiliser, il sait qu'il est dans mon club, il sait que j'avais besoin de gagner. C'est drôle de faire ça, mais dans les faits, ils s'en contrefoutent,
ouais,
les gars. Là.
Le joueur ne t'appartient pas, tout comme je rajoute un petit bonus hors football. Les actions ne savent pas que vous les avez dans votre portefeuille. On en parlera un autre jour dans un autre podcast, possiblement. Mais arrêtez d'être sentimental. C'est que la mathématique et si on parle de football, c'est que du football. Regardez le football, on s'en fout.
T'sais, Odell Beckham, son année recrue, il n'était pas repêché. Odell Beckham a fini dans le top 5 des wide receivers, même en ayant manqué, je pense, 4 matchs. Ben, écoute, est-ce que ça. T'aurais-tu échangé. Mettons que tu avais repêché, je ne sais plus quel receveur en première ronde cette année-là. Les chances sont que Odell Beckham aurait fini devant lui au classement final, puis il aurait eu plus de valeur que ton receveur repêché en première ronde. Pourtant, pour certains DG, tu étais venu les voir après 3-4 semaines d'Odell Beckham qui pétait tout. Ça aurait été impensable d'échanger leur gars pêchant pour un round pour lui, un gars qui. Un vulgaire mendiant qui vient des waivers. Pourtant, tu sais, ultimement, s'il y en a un qui performe, il y en a un qui ne performe pas.
Puis je vais raconter une expérience personnelle qui ressemble pas mal à l'expérience de tasse de café. Récemment, je ne vais pas mentionner qui, mais une personne sur la rive nord de Montréal se targuait d'avoir une maison acheté pour 100 000 $ qui en vaut 1 million aujourd'hui. C'est bien, c'est le marché a monté. Mais cette même personne-là me chicanait de ne pas acheter dans son quartier une belle petite maison à 400 000. Mais je demandais à cette personne, cette maison à 400 000 n'existe pas. Elle vaut 1 million comme la tienne. Puis pourquoi je dis ça, c'est que si la valeur d'un de tes joueurs baisse, il faut que tu comprennes que celle des autres monte et ainsi de suite, puis que c'est pas tout est fixe et ce qui t'appartient vaut plus que ce que l'autre a. C'est tellement con, puis je trouve que c'est d'une évidence extrême, mais j'étais tellement content qu'un jour quelqu'un en parle de cette théorie-là de la tasse à café parce que enfin on comprend pourquoi c'est quasi impossible de trader. Point final.
Voilà, c'est réglé grâce à la théorie des tasses à café. Au cinquième rang de tes conseils, JP, toujours avoir un plan.
Ou jamais, ne jamais avoir de plan à choisir. Bon, quand je dis plan, là, c'est bien sûr d'avoir fait des mock drafts avant de repêcher. Ça va de soi, d'avoir regardé les ADP, d'avoir regardé les consensus, d'avoir écouté notre podcast, bien sûr, et d'être membre Patreon pour voir nos classements peut toujours aider. Mais d'avoir les classements aussi sur plusieurs plateformes, parce que c'est pas vrai que quelqu'un a la science infuse puis a absolument toutes les réponses à tout. Fait que c'est le fun, je trouve, d'aller un petit peu partout sur Internet pour voir les classements, voir qu'est-ce qu'on est d'accord, qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord. Quand je dis de faire des mock drafts, c'est aussi de faire à plusieurs positions pour se rendre compte que, OK, cette année, j'aime tellement les running backs en première ronde, je les aime tellement. Ouais, mais regarde où tu le drafts en première ronde et qui est au retour en 2e, 3e et même 4e, 5e ronde. Fait que tu sais, de voir plusieurs coups à l'avance, je trouve que c'est beaucoup plus payant que de dire « Ah, mais moi, je vais drafter telle position, that's it, puis moi, cette année, j'y vais heavy running back. » OK, mais c'est comme tu vas laisser aller plein de valeurs alentour de toi et tout ça. Fait que je trouve que c'est important d'avoir un plan, de savoir où c'est qu'on s'en va. Mais il y a un petit point qu'on va parler plus tard, qu'au final, il faut avoir un plan, le respecter, ça va de soi, mais d'être prêt à être ouvert aussi au draft.
Puis tu vois, ça nous amène à ton 6e conseil, JP, valeur. Oui, être préparé, mais trop être préparé, c'est comme pas être trop préparé. Ouais. Pas être assez préparé, pardon.
Quand je disais qu'on va parler d'erreurs qu'on a faites aussi dans le passé, moi, c'est une des erreurs que j'ai faites le plus. Puis je me souviens comme c'était hier, on a fait un draft, j'étais là en personne. Juste le dire, là, chez Alex.
Oui.
Bon. J'étais tellement préparé que chaque Christy de ronde, je savais qui j'allais prendre et chaque Christy de ronde, j'ai eu qui je voulais. Mais qu'est-ce qui arrive dans un moment comme ça? Tu dis « Hey, my God, JP est donc bien préparé, sa feuille de papier, tout est cool, blablabla. » Oui, mais il y a tellement de gars de valeur qui ont glissé que je n'ai pas sélectionné. Fait que ouais. Là, au final, moi, j'étais fixe sur mes idées, mais je ne voyais pas du tout, mais du tout, les gars qui glissaient. De là aussi, mon conseil, être préparé, c'est d'avoir un plan et d'être prêt à avoir la flexibilité dans son plan. Fait qu'au final, moi, j'aime laisser le board venir à moi. Fait que laisser les joueurs venir à moi tranquillement. Tu dis, OK, mais écoute, j'aime mieux DJ Moore que DK Metcalf. OK, excellent. Finalement, tu as DK Metcalf qui est une ronde plus tard pendant que tu t'en allais drafter un running back qui a glissé. Mais c'est d'une stupidité extrême de dire, oh, mais là, je t'ai dû pour un running back. Fait que ça va être ça, tu comprends? Fait que d'être flexible, c'est fou. Qu'est-ce que ça change? Et je te dis, là, GF, ça fait pas loin de 600 drafts que je fais, des vrais drafts sur Underdog. 100% des clubs que j'aime le plus, c'est sûr que j'ai laissé le board venir à moi.
Et non sûr que tu as été trop rigide en disant au turn de la 3e ronde, je prends tel, puis dans la 4e ronde, exact. Je prends ça. Puis...
Et la meilleure façon de garder sa flexibilité, ça, écoutez ça comme il faut, parce que j'ai appris ça, je pense, l'an passé. La meilleure façon de garder sa flexibilité, c'est de jamais y aller heavy running back ou heavy wide. Parce que, mettons que tu vas heavy running back, tu es rendu à 3 running back après 3 rondes. En 4e ronde, ça se peut que tu aies la valeur du draft 2025 devant toi, tu dis ça se peut pas que ce running back là il est là, mais Chris, t'es dû pour drafter un wide receiver, mais comme vraiment, si t'en as pas dans les. Fait que de garder un club équilibré te permet d'être ouvert à n'importe quelle valeur. Puis je vous le jure, là, si j'avais su ça avant, my God, ça aurait été encore mieux.
JP, il aurait peut-être, il serait rendu là, multimillionnaire, il serait rendu chum avec Luc Poirier, je pense peut-être. Au 7e rang de tes conseils, JP, ou plutôt 7e conseil, lancer des dards.
Ouais, une expression qu'on a entendue souvent dans un autre podcast qu'on adore.
Ouais.
On attend des nouvelles, justement.
C'est ça, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce
ouais,
côté-là.
Ouais, vraiment.
Ça, on salue quand même Mathias Brunet et Simon Snake-Bois-Vert quand même.
On sait qu'ils nous écoutent.
C'est ça, ben oui.
Mais pour lancer des dards, je te dirais que c'est ma deuxième et dernière énorme erreur que je faisais dans le passé, c'est de ne pas lancer des dards. Au final, après 6-7 rondes, ton club est fait et tu veux... Là, il va y avoir quelques termes anglophones, je suis désolé, là, mais tu veux repêcher des gars que si les gars hit, ils vont hit. Dans le sens que tu veux pas le gars qui fait 5-6 points à chaque semaine sur ton bench qui va te servir absolument, excuse-moi, sweet fuck all. Là. Fait que Sean Tucker, c'en est un cette année pour moi que c'est pas un dog qui m'intéresse. Puis quand on parlait dans le dernier épisode de Keon Coleman versus Kelly Shaker, je le redis, c'est le parfait exemple. Deux gars exactement repêchés au même endroit qui jouent position relativement similaire, là, un slot wide receiver versus un wide receiver externe. Mais il y en a un qui a un ceiling inconnu extrême vers le haut avec aucun floor. Et t'en as un avec un floor vraiment exceptionnel, mais qu'il n'y a rien de spécial qui peut te donner. Moi, j'aime mieux prendre le game ball parce que, mettons, si je draft Keon Coleman, c'est pas le seul d'or que je lance. Je vais avoir 5, 6, 7 d'or. Fait que, il va en avoir un que quand il hit et qui va se rendre à mon alignement partant. Pas un gars qui, en pleurant, je vais devoir starter à un moment donné parce que je suis dû de starter quelqu'un d'autre parce qu'il y a des bye week. Puis au final, quand tu lances des dards payants, qu'est-ce qui arrive? Puis ça, tu m'as vu le faire assez souvent, JF, dans notre ligue. Tu les trades.
Ouais.
C'est Tank Bigsby, c'était un de mes dards préférés dans le passé. Ça a pris 2 secondes après une ou deux semaines que je l'ai tradé pour d'autres dards, d'autres actifs plus sûrs et plus intéressants pour moi. Mais si tu y vas de façon ultra vannée en milieu fin de draft, tu n'as aucun capital de trade, tu n'as aucun capital d'alignement partant.
Je pense qu'une bonne façon aussi de mettre ça en pratique, quand tu arrives pour repêcher le gars, là, tu te mets dans la situation, si ce gars-là, j'en viens à le mettre dans mon line-up, est-ce que je vais être excité? Est-ce que je vois un upside? Est-ce que ça va m'a... Khalil Shakir, c'est un bon exemple de ça, c'est-à-dire, tu vas le mettre dans ton line-up, mettons que tu as 4 blessés, t'es rendu décimé, OK, tu sais, je le sais qu'il va me faire un 9-10 points. Mais versus Keon Coleman, je l'imagine, s'il hit, écoute, en termes d'excitation, en termes de potentiel, c'est facile, le choix est facile. Fait que, évidemment, tu sais, je pense qu'un gars comme Khalil Shakir, exemple, tu sais, mettons que t'as pris des dards un peu plus haut, t'as des recrues, t'as des affaires comme ça, ça peut être un bon complément à ton club. Mais toujours se mettre dans ces souliers-là de « Est-ce que ce gars-là, éventuellement, je vais être excité de le starter? Est-ce que je vais vouloir le starter? » Puis si la réponse est non, qu'est-ce qu'il fait dans ton club? En tout cas, au 8e rang des conseils, ça, c'est peut-être... on est d'accord les deux, je pense, là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de traumatisme relié à ça. C'est-à-dire, faites attention aux recrues slash, on pourrait dire aussi, les joueurs avec des points d'interrogation. Moi, ça m'est arrivé souvent, surtout en début de carrière en fantasy, de m'emballer sur des joueurs qui n'avaient rien prouvé, qui étaient des recrues. Oui, dans plusieurs cas, qui avaient été repêchés quand même relativement tôt. Puis j'ai donné l'exemple de Bishop Sankey, il y a quelques épisodes avec les Titans du Tennessee. J'ai aussi l'exemple de Monte Ball avec les Broncos de Denver, il y a environ 10 ans. T'sais, Monte Ball qui avait été repêché en deuxième ronde, arrive dans la NFL. Et automatiquement, moi, ça me fait beaucoup penser à RJ Harvey cette année, puis aussi dans une moindre mesure, au Marion Hampton. Des gars qui arrivent comme ça, puis c'est comme si, parce qu'ils ont été repêchés haut, c'est des recrues, fait qu'on les connaît pas, c'est excitant, on sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire. T'sais, l'inconnu est excitant en fantasy, je pense. Ben, ils se ramassent à monter, puis on les repêche comme s'ils étaient les starters. Il y a même pas de doute, c'est eux qui ont la job, alors que dans les faits, ils sont dans des comités. Montebourg, il y avait 2 autres gars autour de lui. Montebourg n'a pas starté la première année, il n'a pas starté la deuxième année. La troisième année, il n'était plus dans NFL. Bishop Sankey a eu 3 ans de carrière, il n'a jamais été starter. Bref, au niveau des recrues, à part dans le cas d'un gars comme Ashton Jeanty, que les Raiders ont tellement dépensé de draft capital dessus, c'est certain qu'ils vont lui donner l'opportunité de se faire valoir, sauf des gars comme ça qui ont été repêchés dans le top 10, que tu veux, à un moment donné, te prouver, tu veux te justifier, sauf des exceptions comme ça. Faites attention, moi, je me suis tellement brûlé souvent de repêcher un gars. Tu sais, RJ Harvey, il sort en 6e ronde. Là. Il est supposé être dans ton starting line-up. Au pire, il va être ton flex. Il n'y a même pas de garantie actuellement qu'il va ramener la valeur d'un flex. RJ Harvey peut se ramasser à être backup puis à faire 5 points par semaine. Fait que moi, faites attention, je ne dis pas de ne pas repêcher de recrues, mais pour moi, il faut vraiment, vraiment faire attention puis pas faire attention de ne pas s'embarquer dans un hype où est-ce qu'on se ramasse à pêcher un gars comme s'il était starter incontesté, alors que dans les faits, il ne l'est vraiment pas.
Oui, puis moi, je reviendrai sur l'analogie des tasses à café. RJ Harvey sort loin devant un DeAndre Swift et Tony Pollard, mais juste parce que RJ Harvey a des petits brillants sur sa tasse à café. Au final, c'est la même utilité. On ne sait même pas si la tasse est aussi efficace que les deux autres, mais l'aspect magique brillant fait en sorte qu'on s'emballe. Et on les aime pas, nos vieilles tasses à café utiles et agréables, et je ne sais pas pourquoi. Mm-hmm. On ne s'ostinera pas là-dessus longtemps, JF, non, parce qu'on est pareil là-dessus.
C'est ça. Puis tu sais, l'autre truc que je dirais avant de passer, dernier petit truc, faites attention aussi, tu sais, mettons que vous aimez beaucoup, on parlait de Ricky Purcell, JP. Tu sais, Ricky Purcell, je sais que tu l'aimes beaucoup, il y en a beaucoup qui sont très, très excités. Il faut quand même faire attention de pas, tu sais, mettons que tu l'aimes, Ricky Purcell, tu le repêches, tu jump the gun, tu le repêches en sixième ronde. Ricky Purcell, il n'est pas assuré d'être le receveur numéro un à San Francisco cette année. Tu peux croire en son talent, tu peux croire que Ayuk va être blessé, Jennings aussi est un petit peu blessé, il va peut-être avoir l'opportunité, puis il va l'avoir la job, mais il faut quand même qu'il leapfrog en avant deux gars sur la depth chart pour avoir ce rôle-là. Fait que si tu le repêches en septième ronde, en sixième ronde, il est supposé être un de tes starters versus si Ricky Purcell sort en 10, 11e ronde. Écoute, là, tu peux te permettre d'être patient. Rico Dowdle, l'an dernier, c'est un très bon exemple de ça. Tu pouvais croire qu'il était meilleur que Zeke Elliott et qu'il allait le dépasser, mais Rico Dowdle, il sortait en 11e ronde. Il sortait pas en 5e ronde. Fait que c'est un super beau gamble. Au pire, il est pas. Il est sur ton bench, tu le drops, c'est pas grave.
C'est un dart parfait.
Voilà. Fait que faites attention à ça. Moi, je me suis assez souvent fait brûler. Fallait que je partage ça avec les gars. Et neuvième et dernier conseil, c'est beau ça. Je trouve que c'est un beau message à envoyer à nos auditeurs, JP. Se faire confiance. Faites-vous confiance.
Là, je parle de la vie en général. Non, on reste dans le fantasy, bien sûr. Là. Peu importe le spécialiste, les analystes, et je m'inclus là-dedans, j'inclus JF là-dedans, personne ne frappe pour 1000. Mais personne ne frappe pour 1000, littéralement. Fait que, est-ce que tel groupe d'analystes frappe pour 600, tel autre podcast pour 700, et ainsi de suite? On ne sait pas, ça change d'année en année. Donc, faites-vous confiance dans vos propres analyses. Fait que, accumulez des informations et des analyses d'un peu partout. Mais après ça, quand votre gut feeling et surtout votre pragmatisme vous amène à aimer tel ou tel joueur, et surtout à ne pas aimer tel ou tel joueur, une année comme mettons en 2025, mais faites-vous confiance. Fait que draftez ceux que vous pensez qu'ils vont performer et ne draftez pas ceux que vous ne pensez pas. Parce que pourquoi je voulais qu'on en parle, on a plein de commentaires, puis je suis tellement heureux qu'on ait des commentaires sur notre podcast. Puis tu sais, ça arrive souvent, un gars vient me voir et me dit tellement bon, je suis d'accord avec tel ranking, mais tel gars, moi j'ai vraiment plus haut que vous. Ben c'est correct. C'est vraiment correct. Il n'y a pas une liste universelle que tout le monde doit suivre. C'est notre liste à nous, c'est selon nous, on pense que tel gars est 16e receveur de passe, donc on le met 16e, that's it. Ça se peut qu'il finisse 20, ça se peut qu'il finisse 24, ça se peut qu'il finisse 10. T'sais, on a fait l'analyse, mais puis aussi on s'est attardé à chaque position puis à chaque statement qu'on fait. Fait que ça va de soi, c'est intéressant, mais je veux que vous vous faites confiance rendu au draft puis d'y aller selon vos théories puis... On connaît plein de gars qui, au final, ils vont dire « Écoute, regarde-moi, c'est vraiment une année que je trouve deep wide receiver, j'y vais heavy running back. » Mais si c'est ça que tu veux, vas-y. Mm-hmm. Fais-toi pas influencer par nous. Oui, on est vraiment choyé qu'on se posait des questions puis qu'on nous fait mm-hmm. vraiment confiance, mais regardez le board aller, allez-y avec vos feelings, avec vos préférences. Puis je dis ça aussi, là, cette année, il y a un gros débat, là. Au départ, c'était Bijan Robinson ou Saquon Barkley. Là, Jahmyr Gibbs est rentré dans le party. Mais il y en a qui sont vraiment vendus pour Gibbs. Mais rendu là, c'est un flip de coin ouais. dans ces trois gars-là. Prends le gars qui te fait vibrer et qui t'aime. Si c'est Gibbs, vas-y. Là. C'est tout. Fait que je voulais juste dire ça, que faites-vous confiance puis ça va bien aller.
Très, très bon point, JP. Puis c'est ce qui clôt nos conseils fantasy pour la saison à venir. Mais je dis pour la saison à venir, je pense que la majorité de ces conseils-là s'appliquent pour le reste de votre carrière comme DG de fantasy football. On va maintenant passer aux questions. On a eu quand même beaucoup de questions de nos auditeurs. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas pris le temps d'en répondre à quelques-unes. Donc, on se lance immédiatement, JP. On a une question de Guillaume qui nous demande « Qu'est-ce que tu as relevé des matchs de pré-saison? Est-ce qu'il y a une situation particulière où une offensive serait en gros déclin qu'on n'aurait pas vu venir? »
Ce que j'ai relevé le plus, c'est à quel point que les starters ne jouent pas et que c'est vraiment parsemé par-ci par-là, d'équipe en équipe. Il n'y a aucune logique de les respecter. Donc, pourquoi je commence avec ça, c'est pour dire qu'il n'y a aucune analyse profonde des offensives en général que je fais. C'est terminé. Avant, on voyait des systèmes de jeu, tester des trucs par-ci, par-là. Mais j'ai trouvé ça terriblement décevant. Mais ce n'est pas la première année que c'est comme ça.
Non, ben, il y a eu des changements de règles l'année dernière saison qui, tu sais, dans le fond, tu n'as plus beaucoup... C'est pour protéger les starters aussi. Avant, il y avait des blessures, des choses comme ça. Puis s'il n'y a rien de plus frustrant dans un match pré-saison qui ne veut rien dire, tu perds ton meilleur joueur offensif, ton meilleur porteur de ballon, etc. 100%. Mais ça fait en sorte que la pré-saison, qu'est-ce que ça vaut? Il y a des petites batailles à surveiller ici et là, mais overall, pour déceler des tendances, c'est rendu vraiment difficile.
Non, puis moi, je te dirais même impossible. Puis c'est la pré-saison, ça ne veut rien dire. On a vu Kenny Pickett avoir de l'air de Joe Montana il y a quelques années. Puis finalement, c'était littéralement la pire offensive de la NFL en saison. On a vu des corps arrière de grands talents rushés en pré-saison. T'sais, honnêtement, on a tellement tout vu. Mais qu'est-ce qui donnerait vraiment beaucoup d'informations où on teste vraiment des beaux trucs? Ça serait le scrimmage avant les games pré-saison. Fait que tu sais que les Titans du Tennessee font du scrimmage toute la semaine contre les Vikings du Minnesota. Si on avait une caméra et on voyait toute l'offensive 1 contre la def 1 des deux balles, là, voilà, il y aurait de l'information solide. Mais outre que ça, je suis désolé, Guillaume, mais pas grand-chose à dire.
Ouais, c'est ça. Si tu veux aller voir, avoir un petit peu plus de détails au niveau du vibe, des choses comme ça, va checker les beat writers, qu'est-ce qu'ils rapportent, qu'est-ce qui sort des camps, à la limite. Mais en checkant le tape, très, très peu d'informations. Une autre question de Guillaume aussi. Est-ce que la théorie qu'un porteur de ballon est fini à 30 ans tient encore la route quand on voit des James Conner ou King Henry, ou est-ce qu'il s'agit là d'exception à la règle?
Je sais pas, toi, Jeff, t'en penses quoi?
J'aurais tendance à dire exception à la règle. C'est quand même... Il y a comme une... Je sais plus c'est quoi, là. C'est deux... Je sais plus c'est combien de carries à partir d'un certain nombre de carries en carrière que tu le vois, là, en général, en moyenne, il y a vraiment une drop.
Ouais, normalement, c'est à peu près à moitié du deuxième contrat d'un running back. Tu sais, King Henry, là, Derrick Henry, c'est un Alex Ovechkin, dans le sens où tu ne peux pas reproduire ça. C'est un surhumain, ça n'a aucun sens. James Conner, ça tire vers la fin. Et là, tu sais, je rajoute un petit bonus, mais les receveurs de passes passés 31 ans, peu importe tu es qui, Larry Fitzgerald, Randy Moss, Julio Jones, AJ Green, name it, c'est vraiment difficile.
Ouais.
Vraiment, vraiment, vraiment difficile.
Ouais. C'est un sport très, très, très difficile. Pas les carrières sont très, très courtes, malheureusement. À part pour les carrières qu'on dirait, là, finalement, avec les nouvelles règles, peuvent jouer jusqu'à 60 ans. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Question de Maxime. Considérant la gravité de sa blessure en 2024, est-ce que Tank Dell a toujours une valeur niveau Dynasty?
C'est une bonne question. Question assez deep. Merci. Écoute, son genou a été littéralement démoli. Là. Il n'y a aucun ligament et même, je pense qu'il y a eu une fracture de la patella, là, fait que de la rotule du genou. Donc, il n'y a pas grand-chose qui tenait la jambe ensemble. Fait que, un retour cette année, c'est impossible. Mais est-ce qu'il y a encore une valeur en dynastie? Ceux qui ont des dynasties savent qu'on a des benches éternels, là, fait que des benches d'une vingtaine, si ce n'est pas une trentaine de gars. Moi, je demanderais à Maxime, ça dépend qui qu'il y a dans les waivers. T'sais, si tu me demandes la valeur de Tank Dell, c'est-tu par rapport à un Darius Slayton ou c'est par rapport à un Keyshawn Boutte? Tu comprends? Fait qu'on est vraiment, loin. Je pourrais donner mille et un exemples, mais s'il n'y a pas grand-chose, ça ne coûte rien de le garder. On a eu trois gars qui ont eu des blessures similaires, mais une petite coche moins pire que lui. Mais Tom Brady, son genou... ça a été similaire à ça. Jalen Smith, un des plus beaux prospect backers de Notre Dame, si je ne me trompe pas, avait eu ça avant d'arriver dans la NFL. Puis Nick Chubb, on a vu malheureusement sa blessure. C'était celui qui ressemblait le plus à Tank Dell. Ils sont relativement revenus en santé, peut-être pas avec la même explosion. C'est ce qui me fait peur un peu de Tank Dell parce que c'est son jeu.
Voilà.
Je demanderais moi à Maxime, oui, mais ça dépend pour qui. Mais c'est sûr que niveau... trade, là, il vaut 0,0. Si on était en dynastie ensemble et qu'on avait un fab de 100$ pour la saison puis tu m'offrais 2$ pour mon Tank Dell, je le prendrais.
OK. Ça le mérite d'être clair. Puis, si vous avez un IR spot ou un taxi squad, OK. Sinon, ça dépend de la profondeur de votre bench, là, mais en ce moment, il y a tellement d'incertitudes. Moi, j'ai de la misère à croire que Tangdell va encore un avenir dans la NFL, malheureusement pour lui. Une autre question de Maxime. Avec les récentes coupures échanges, est-ce que la valeur de David Njoku et Jerry Jeudy des Browns ont changé? Joe Flacco a tendance à lancer énormément de ballons. Les Browns vont être dans cave cette année. Donc, est-ce que ça risque de se reproduire?
C'est beaucoup de matière pour les Browns. Cooper, sûrement qu'on parle de Diontae Johnson. On en a
l'échange de Kenny Pickett.
Ouais, on Raiders, en a parlé dans l'épisode dernier. Tout a été dit. Puis pour leur valeur, Njoku, Jeudy sont draftés relativement au bon endroit en ce moment. C'est pas des gars que je suis surexcité. Joe Flacco, on a. Écoute, on exagère un peu, je pense, sur ces dernières années. On oublie vraiment vite que c'est un carrière qui a une tête de football. Pas si exceptionnel que ça. C'est pas le plus grand workaholic de l'histoire de l'humanité non plus, en passant. Mais on pense un peu que c'est un sauveur, surtout au niveau fantasy. Mais au niveau statistique, il n'y a rien de
je pense que ça illustre bien la pauvreté, plutôt le manque de profondeur au niveau talent à la position de carrière. Pour que Joe Flacco vienne dans la NFL et soit vu par certains comme un sauveur, genre, là, sauveur est un grand mot, mais ça te montre, tu sais, honnêtement, moi, l'an dernier, je le regardais aller, qui était meilleur que plusieurs autres gars qui sont starters ailleurs dans la NFL, tant
ça,
qu'à moi.
Ouais, ça en dit long, JF, puis, tu sais, ça fait longtemps que je suis le football, ça va faire j'avais dit une vingtaine d'années, c'est peut-être plus que ça même, mais. Je trouve que le nombre de bons carrières, fait que je ne parle pas des très bons, je ne parle pas d'élite, puis je ne parle pas des générationnels, juste les bons. Fait que ce qu'on appelle un Derek Carr, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mm-hmm. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai l'impression que début des années 2000 jusqu'à peut-être début 2010, on en avait un petit peu plus d'Eli Manning de ce monde, puis Ben Roethlisberger. Donc, ça tombe à pic vraiment rapidement. Fait que tu sais, Joe Flacco ne devrait jamais starter une game dans la NFL en 2025, techniquement, mais écoute, on est rendu là. Puis tu sais, on nous a glissé quelques questions par rapport aux Browns. Je ne sais pas c'est quoi l'excitation avec cette équipe, mais OK, Joe Flacco, le champ.
Valeur potentielle.
Ouais, le champ semble libre pour starter toute l'année. Ils ont laissé aller Kenny Pickett. De un, moi, je pense que ça dit qu'ils ont confiance en Dylan Gabriel et Shedeur Sanders pour pallier un peu cette année ou pour dans le futur. Mais en tout cas, tu draftes deux corps arrière dans le même repêchage, tu les signes et tu les gardes dans ton 53, là, fait que dans ton alignement partant. Ça veut dire que tu veux leur donner des matchs dans l'année. Puis tu sais, Joe Flacco avec les Browns, début d'année, je vais vous donner la schedule,
calendrier.
Ouais, le calendrier. Dites-moi s'il n'y aura pas un changement de carrière d'ici la fin de ces matchs-là. Donc, première semaine, les Browns reçoivent les Bengals à Cincinnati. Une belle petite défaite. Semaine numéro 2, les Browns jouent à Baltimore. On est 0-2. Semaine numéro 3, les Browns reçoivent les Packers de Green Bay. Je pense qu'on est
Un avantage aux Packers.
Et voilà. Semaine numéro 4, on joue à Détroit.
Oh boy.
Fait que là, mettons là, à partir de là, fait que c'est le 28 septembre, moi je pense qu'on peut. La fenêtre est ouverte pour un changement de QB. La semaine d'après, reçoivent les Vikings du Minnesota et après ça, on joue à Pittsburgh. Fait qu'on s'entend d'ici Pittsburgh, il y a un changement de QB, c'est sûr et certain. Si les Browns sont 4-2 par miracle, mais écoute, Joe Flacco va être nominé pour être le MVP de la NFL. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis excessivement pessimiste. Je l'étais à prime abord, mais quand j'ai ouvert le
calendrier
des Browns, j'ai comme ça, se peut pas.
OK. Bon, fait que Maxime, si tu commences à t'exciter, ça, je pense que tu vas être pas mal refroidi. Christopher, qui nous demande d'un repêchage, quand vient notre tour? Est-ce qu'on devrait prioriser la sélection du meilleur joueur disponible ou y aller selon nos besoins? Hey!
Ça, c'est bon.
Ça, c'est une bonne vieille question.
Ça là, puis tu devrais poser la même question à Trevor Timmins. C'était un contact avec lui, Christopher. Posez la question, s'il te plaît.
Oui, s'il vous plaît.
C'est une très bonne question. C'est sûr que, vraiment, à prime abord, c'est facile de dire le meilleur joueur disponible, mais si tu as déjà drafté Brock Bowers en début de deuxième, puis tu as George Kittle devant toi, qui est le meilleur joueur disponible, je te dirais non merci, ne fais pas ça, s'il te plaît. Fait que ça a ses limites d'y aller raide comme ça, mais le meilleur joueur disponible. Parce que ça va être la meilleure valeur, point final. Puis les équipes s'équilibrent. Et c'est bien rare que j'ai vu un club manquer des séries parce qu'il y avait trop de bons running backs ou trop de wide receivers.
Tuff voulait aussi savoir, est-ce que tu priorises une attaque menée par les porteurs de ballon ou les receveurs de passe? Et est-ce que les stud tight ends sont overrated en half PPR?
Ouais, en gros, la question, c'était est-ce que j'aime mieux une équipe fantasy heavy wide ou heavy running back? Et on en a parlé vraiment souvent. Ni l'un ni l'autre, j'aime la valeur au niveau des tiers. On en a parlé souvent. J'adore les receveurs de passe en 4, 5, 6e ronde. Et j'adore les running backs tôt dans le repêchage cette année. Fait que j'aime les deux positions au final. C'est juste qu'il, par rapport où ils sortent dans le repêchage, il y a une position que j'aime mieux que l'autre. Et est-ce que les tight end studs sont overrated en FPPR? Peut-être. Je te dirais peut-être. T'sais, Trey McBride sort vraiment tôt. Vous connaissez mon amour pour Brock Bowers, que lui, je te dirais qu'il est underrated pratiquement. Mais oui, parce que moi, j'ai inclus dans les studs, possiblement, qui veut dire aussi un Kelce et un TJ Hockenson que je déteste pas. Mais oui, je pense qu'ils sont un peu overrated.
Particulièrement McBride, tant qu'à moi, qui sort très, très haut, pas tant loin après Bowers, alors qu'il y a un monde de différence entre les deux. Sam Aubu qui nous demande à quel moment faut-il arrêter de suivre la stratégie Moneyball pour s'assurer d'avoir toutes les positions? Jamais, Sam. On n'arrête jamais de suivre la stratégie Moneyball.
Bah, quasiment. Honnêtement, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire d'autre.
Non, mais pour vrai.
À moins, il te faut parer un QB, un tight end, puis deux running back, puis deux wide. Là. On s'entend, mais c'est bien rare. C'est vraiment rare que si tu suis justement la stratégie Moneyball, ça va à un moment donné. Ça va arriver que tu vas tomber sur un QB si tu n'en as pas de QB.
Ouais. Tu sais, à un moment donné, je pense, tes positions sont toutes remplies. Là, il te manque un corps arrière, puis il reste Prescott sur le board, puis tu regardes un peu autour de toi, tu as peur de te le faire sniper. Je pense pas une mauvaise décision rendue là d'aller une ronde et demie, deux rondes, même trop tôt pour lui, si c'est la pièce manquante à ton line-up. Fait que faut être... Mais rendu là, tu pourrais faire l'argument de dire que, ben, à ce stade-là dans le draft, pour ton club, c'est lui qui était le meilleur joueur disponible, c'est lui qui avait le plus de valeur. Fait que t'as peut-être l'impression d'avoir trahi la théorie Moneyball, mais tu l'as peut-être pas trahi tant que ça, Sam, finalement, tu vois. Sam voulait aussi savoir, il y avait aussi... Sam, il se creuse la tête avec les défenses. Là, il se dit, faut-tu genre repêcher dans 5e ronde ou en 10e ronde? Sam, le plus tôt possible. On a un draft qui s'en vient, tu me repêches ça le plus vite possible. Ton premier choix même, je le considérerais pour la D des Broncos ou quelque chose de même. Blague à part, Sam veut savoir essentiellement quelle défensive risque de faire le plus de points en fantasy cette année, puis également... C'est quoi la meilleure stratégie? Est-ce qu'on devrait prendre une bonne défense au repêchage, quitte à la prendre un petit peu plus tôt, la garder toute l'année? Ou est-ce qu'on est mieux de faire du bon vieux streaming puis d'y aller selon les match-ups, selon les défensives qui sont disponibles sur les waivers?
Ouais, c'est des bonnes questions. Puis on en a une autre exactement le même thème qui va suivre. Fait que désolé si ça se chevauche un peu, mais quelle est la meilleure défensive possiblement cette année? Écoute, meilleure défensive... NFL, dans la vraie vie, ne rime pas avec meilleure défensive fantasy. Pour faire des points en fantasy, il faut des turnovers. Ce n'est pas nécessairement les points accordés. Je te dirais que la meilleure def dans NFL, selon moi, c'est les Broncos de Denver. Est-ce qu'ils vont faire du turnover? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'aimerais ça mouiller, là, Sam, mais écoute, il y en a quelques-unes qui sont bonnes. Fait que moi, je vais tout de suite jumper à ton autre question qui me plaît beaucoup, mais ça me plaît moins de dévoiler mon secret par rapport au def fantasy. Mais la meilleure théorie, selon moi, c'est de regarder quel def de qualité niveau football ont...
Le meilleur calendrier?
Oui, le meilleur calendrier au départ. Jamais, mais jamais, à part quelques années d'exception, je vais avoir une défensive toute l'année dans mon club. Mais jamais. Ça ne sert absolument à rien. C'est un gamble qui ne vaut pas la peine. C'est une paresse, selon moi. Mais qu'est-ce que j'aime faire? C'est de commencer avec une def qui a un calendrier de 2-3 matchs intéressants et après ça, d'y aller dans les waivers à chaque semaine. Parce que littéralement, chaque semaine, même si vous êtes 12 sur 12 à alterner de défensive, il va en avoir des intéressantes. Puis tu sais, déjà la semaine 1, une défensive qui ne devrait quasiment pas être repêchée en fantasy, les Cards d'Arizona jouent à Nouvelle-Orléans. Mais c'est exceptionnel. Pourquoi je paierais cher pour avoir la def des Broncos de Denver pendant que j'ai un match-up similaire qui me coûte absolument rien, qui serait dans les waivers, mettons, si cette game-là était la semaine 4?
Puis tu sais, il y a certains DG qui vont apprécier cette tranquillité d'esprit-là, au lieu de tout le temps courir ses waivers, combien il faut que je bette, surtout quand tu utilises le FAB, là, tu sais, OK, faut que je mette 5$, il y en a un qui met 6$, fuck. Ça peut être rassurant, mais en général, streamer, ça reste une stratégie quand même assez éprouvée, là.
Puis aussi, d'année en année, de demi-saison en demi-saison, je te dirais même de 4 matchs en 4 matchs, ça change c'est qui le meilleur def. Puis tu sais, quand on évalue que AJ Brown, c'est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL, l'évaluation du talent ne change pas aux 3 semaines.
Voilà.
Ni son contexte. Les defs, ça change du tout au tout, surtout par rapport à c'est qui leur adversaire. Donc, en parenthèse, plug-in def toute l'année, pour moi, c'est pratiquement un non.
Tu sais, c'est pas inimportant, puis j'ai hâte à la prochaine question pour ça, mais pour moi, si tu montes un bon club, évidemment, tu veux pas avoir la def des Saints là, qui start, là, mais c'est pas là que ça va jouer, c'est pas ça qui va être le difference maker entre une victoire puis une défaite à long terme. Puis justement, ben Maxime, un autre Maxime, c'est pas le même. C'est-tu le même Maxime qu'au départ?
Non, c'est
un
autre Maxime. Maxime D.
C'était Maxime T, là, c'est Maxime D. Salut Maxime. Quelle est votre stratégie à l'égard des kickers et des défenses en 2025? En général, êtes-vous d'avis de bannir ces positions? Ah, que j'aime cette question-là. Kickers, absolument. Moi, j'ai plus de ligue avec des kickers, ça fait plusieurs années. Puis je pense que la tendance s'en va de plus en plus vers là. Il y a trop de randomness à la position. La performance de ton kicker, la vaste majorité du temps, n'a rien à voir avec son talent. Ça a vraiment purement juste à voir avec le script du match. Est-ce que la défensive adverse a arrêté constamment l'offense à 40 verges la zone début, fait qu'il y a eu 6 occasions de faire des bottés de placement? Puis, tu sais, il y a plusieurs kickers qui sont généralement, tu sais, il y a des gars qui sont reconnus comme les meilleurs à leur position. Pendant longtemps, Justin Tucker avec les Ravens était vu par plusieurs comme un top 5, là, un gars hyper régulier. Puis tu regardais ses finishes d'année en année en fantasy. Ça n'a absolument rien à voir. Ça dépend, tout dépend du script, tout dépend de la défensive adverse, de si des fois tu peux pogner une journée qu'il y a du vent partout puis les bottés s'en vont dans tous les sens. Bref, c'est moi, j'aime pas l'aspect. C'est, ultimement, ce que j'aime en fantasy, c'est drafter des gars que je vais regarder jouer puis que je vais. Les kickers, il y a comme. Bref, moi, je trouve que c'est trop random puis ça relève trop de la chance pour être intéressant. DST, là, JP, on pourrait en débattre. Encore là, moi, je pense, si tu veux, ultimement, moi, je pense que l'avenir là-dedans, c'est peut-être plus d'avoir des joueurs individuels à certaines positions qu'avoir une DST. Encore là, je trouve qu'il y a tellement. C'est qu'ultimement, ces deux positions-là sont complètement à part du reste. Puis tant qu'à moi, il y a tellement de différence entre la manière de gérer ces positions-là puis le reste. Je trouve ça. Il y a un manque de cohésion. Bref, je trouve ça moins intéressant. Ça me fait moins triper que les autres positions. Fait que. Moi, si je peux passer puis les enlever, je le fais.
Oui, ben moi, je suis assurément à la même place. J'aime mieux ajouter des flex. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut, c'est d'être récompensé pour nos analyses puis nos choix, pas être récompensé parce qu'on a été chanceux d'avoir le kicker qui a eu 5 field goals de 50 verges cette semaine.
Et voilà.
Puis, tu sais, si vous voulez une stratégie, là, malheureusement, dans mes débuts en fantasy football, quand je gageais dans mes bonnes années, il y avait des kickers dans les alignements. Comment que je me suis monté un système, parce que là-dessus, c'était que mathématique, là, pour avoir un kicker payant. Pour ceux qui en ont encore, je vais donner la stratégie, mais de un, il te faut une offensive qui avance. De deux, c'est justement d'affronter une défensive qui sont excessivement bons en red zone et qui n'a pas du vent de façon exceptionnelle dans un match précis. C'est tout. C'était juste ça. C'est pour ça que je pense que c'est Brandon McManus dans le temps de Peyton Manning à Denver. C'était exceptionnel quand les Broncos jouaient contre une grosse def parce que les Broncos avançaient, mais avaient de la misère en red zone parce que la def était trop bonne. Mais qu'est-ce que ça faisait? Tu avais énormément de field goals. Mais tu sais, c'était pas parce que McManus jouait un grand match et l'autre kicker jouait un mauvais match. C'est ce qu'on veut. On veut être récompensé pour des vraies analyses.
C'est ça.
Puis pour les defs, moi, je trouve que c'est un peu le même principe. Je ne suis pas un grand fan. Si j'avais à voter, ça serait, il faut que ça disparaisse. Et encore moins des joueurs défensifs pour les statistiques parce que c'est terriblement aléatoire. Parce que tu n'as pas... Tu sais, une offensive, là... Je peux se dépasser une minute?
Vas-y. Bon. Ben oui, garde-toi, JP.
Le but d'une offensive au football, c'est de l'exécution. Donc, il planifie un jeu. Il essaie de l'exécuter. Il y a plusieurs plans dans ce même jeu-là. Et la défensive, leur but, désolé, tu me dis si un mot pour ça en français, mais ils essaient de disrupt l'exécution de l'offensive. Fait qu'ils essaient de démolir l'exécution offensive. Fait que c'est ça le but d'une défensive. Donc, tu réagis sur ce que l'offensive voulait faire. Donc, un sac du corps, c'est une réaction à un jeu précis dans un moment précis, même principe pour une interception, même affaire pour un TFL, un tackle for loss. Donc, il n'y a personne qui arrive dans le huddle défensif à comme « OK, bon, ce coup-ci, moi, j'y vais pour un sac. » Mais non, ça va être 90% des snaps dans la vie de Von Miller qui est sur une passe, qui son but, ça va être un sac. Tu comprends? Il n'y a pas de planification de jeu comme une offensive. Il y en a, là. Fait que je connais moi pas. Je sais que des patrons de jeu défensifs, mais tu ne planifies pas comme une offensive. Mm. De là, la non-prédictabilité. Merci.
Excellent, JP. Écoute, on est déjà rendu à une heure pour notre épisode. Fait que je pense qu'on va arrêter ça ici. On va garder les questions en banque, puis on va y répondre ultérieurement. Inquiétez-vous pas, les gars. On veut s'assurer là, de prendre le temps de répondre à ceux qui prennent le temps justement de nous écrire. Donc, JP, merci. J'espère que les gars vont avoir apprécié ça. Je trouve que c'était super intéressant comme épisode cette semaine. Plusieurs conseils, certains voudraient dire c'est d'une évidence, mais il y a aussi beaucoup de conseils qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé. Puis bref, si on peut faire profiter à certains de nos erreurs du passé pour éviter qu'ils les répètent, tant mieux. Tant mieux. Fait que JP, merci. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde.